C'est la revue de presse des Hebdos. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
Tu m'as dit en arrivant, espérer que les auditrices et les auditeurs de Radio Campus ne souffrent pas d'une overdose d'infos.
Eh oui, parce que j'ai entendu une chronique qui relatait que beaucoup d'auditeurs en avaient marre de l'info. Alors s'il vous plaît, restez avec nous et n'oubliez pas l'adage, un homme averti en vaut deux. Alors un homme dans le sens de l'humain, bien sûr.
Tu commences par le canard enchaîné.
À la une du canard enchaîné, Macron sonné par une commotion de censure. Et l'édito au titre, la preuve par neuf. Emtaz développe. Bien sûr, il parle de Macron, sa réforme des retraites peut désormais être considérée, bien que majoritairement décriée, comme adoptée. Elle sera promulguée pour entrer en vigueur à l'été. Sauf que, évidemment, une victoire de cet acabit ne signifie en rien la fin de ses ennuis, ni de ceux de la Première ministre et du gouvernement. Elle apporte au contraire la preuve par neuf que leurs difficultés n'ont pas fini de redoubler. Pour finir, et en guise de conseil, il dit « Mais après, enfin il écrit, mais après cette épreuve par neuf qu'il vient d'encaisser, là c'est du neuf qu'il va forcément lui falloir trouver. » Les autres sujets qui se disputent l'intérêt du volatile, je les ai cherchés dans les dessins et autres caricatures. Alors, le GIEC et son rapport, la déroute du Crédit Suisse, LR et ses divisions, le bac, ah oui, c'est l'époque du bac, hein,
ah bah
le baccalauréat,
oui,
eh ben oui. La grève des éboueurs, Jinping et Vladimir Poutine. Ben, il n'y a pas que Macron.
Certes, mais dans le 1 de la semaine, il est bien au centre des réflexions sur la démocratie qui serait en ce moment sur des braises. C'est le titre, La démocratie sur des braises.
Ce sujet a inspiré à Eric Fotorino un Zakouski assez flamboyant qui commence comme ça. Bien sûr, il y a la raison. La raison de ceux qui croient avoir raison, de l'Élysée à Matignon, qui appellent à la raison au nom des comptes de la nation, au nom de la raison d'État, au nom de la raison envers et contre tout, envers et contre tous, citoyens, opposants, syndicats et autres corps intermédiaires. L'essence de la démocratie, c'est le conflit, disait Michel Debré, le père de la Constitution de la Ve République, qui développait ainsi sa pensée. La discussion politique aboutit par la force des choses à des conflits, et le rôle du président est de régler les conflits entre le gouvernement et le Parlement. Eh bien, nous en sommes loin. Mais où en sommes-nous exactement après cette passe et impasse d'armes si chahutées entre l'exécutif et le législatif, entre le pouvoir et la rue, entre le président et les Français? En rompant le contrat tacite passé avec les citoyens, le président prend le risque d'affaiblir lui-même la démocratie en la vidant de son principe actif. À quelques semaines du premier anniversaire de sa réélection, il est plus que jamais seul face à un pays au bord de l'explosion. Les chroniqueurs du 1 apportent leur éclairage. Bruno Cotresse, responsable du baromètre de la confiance politique au CFIPOF, analyse « Les aspirations frustrées du pays à une démocratie moins verticale et plus participative et craint qu'elle ne se transforme en une remise en cause de la démocratie elle-même si elle ne trouve pas rapidement une traduction institutionnelle. » Nicolas Rousselier, historien, et Patrice Trappier, journaliste, décortiquent l'histoire du 49-3 des origines à Elisabeth Borne, mais le plus critique envers le locataire de l'Élysée, désigné par les oppositions, les médias et l'opinion publique comme le pompier pyromane de la crise actuelle. Mais pour lui, les responsables du fiasco sont partagés. Un gouvernement incapable de créer un consensus politique autour d'une réforme dont la communication erratique demeurera un antimodèle du genre. Les oppositions, quant à elles, ne sortent pas grandies. L'agitation permanente dont elles ont fait preuve ne constitue pas une politique et encore moins une alternative enviable au pouvoir actuel.
Et alors, dans l'Express, 49-3, les retraites ou Macron ?
Macron a sans conteste la priorité absolue dans l'hebdo. Pourtant, le titre sur la couve est plutôt dubitatif. Tout ça pour ça. Que veut dire ce titre ? C'est ce que vont s'efforcer de nous expliquer les chroniqueurs du dossier. Lourd le dossier, rien moins que 9 articles. 9, décidément, c'est le chiffre à la mode. Celui qui m'a le plus intéressé, c'est celui d'Éric Mandonnet. Réforme des retraites, l'autre menace qui pèse sur le texte. Malgré l'adoption du texte, après le rejet des motions de censure, le parcours du texte n'est pas terminé. Première étape, le Conseil constitutionnel. Alors je vous rappelle que c'est aussi ce qu'a dit le président mercredi dernier dans son intervention de 13h. Attendons l'avis du Conseil constitutionnel. Donc, Mandonnet, revenons à lui. Il s'appelle les sages. C'est dire si, dans la période actuelle, il ne court pas les rues. C'est le Conseil constitutionnel qui va décider de son sort. Alors, de deux manières. Alors, tenez-vous bien, écoutez bien, parce que c'est un peu compliqué.
Ah, on t'écoute.
En l'examinant formellement pour déterminer notamment ce qui relève effectivement d'une loi de financement de la sécurité sociale et ce qui doit être considéré comme un cavalier. Alors, je vous laisse découvrir ce qu'est un cavalier. Mais ils doivent aussi examiner la recevabilité de la proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée déposé la semaine dernière par 185 parlementaires. Dans quel ordre agira-t-il si le texte réformant les retraites est promulgué avant la validation du référendum d'initiative partagée? Celui-ci ne pourra pas être lancé, car il ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Dans le cas contraire, il ne serait organisé que si les assemblées refusaient, au terme de la procédure, de statuer sur la proposition de loi. Les si ont la vie belle. Intéressant, non ?
Pour Courrier International, en France, une colère qui ne s'éteindra pas.
C'est le titre du bandeau. Alors je choisis, moi, d'évoquer plutôt celui de la couve, la paix made in China. Au Moyen-Orient, comme en Ukraine, le président chinois se pose en médiateur. Dans ce numéro, nous explique Claire Carrard dans l'édito, il est question de géopolitique, mais aussi bien sûr du 49-3, comme dénouement de la réforme des retraites. Alors pas de problème, en page 10, vous trouverez une rubrique intitulée « Retraite, amère victoire » qui réunit les extraits de la presse internationale, inquiète de l'état de notre démocratie. Pourtant, il me semble qu'il est aussi important de suivre dans le dossier la politique du président chinois Xi Jinping. Comment comprendre ce nouveau rôle de puissance médiatrice, oui, endossé par Pékin ? Ukraine, Jinping, peut-il jouer les médiateurs ? Iran, Arabie Saoudite, Jinping, le nouvel arbitre du Moyen-Orient ? Mais la Chine entend surtout bousculer la puissance américaine de l'Afrique au Pacifique et défendre un ordre nouveau mondial. Face aux ambitions chinoises, l'administration Biden se révèle incapable d'imaginer autre chose que l'endiguement théorisé pendant la guerre froide, nourrissant ainsi la paranoïa de Pékin. Alors, faut-il s'inquiéter plus du 49-3 ou de la politique chinoise ?
On termine cette revue de presse des hebdos avec le culturel Télérama.
Alors, mon féminisme viscéral est plutôt satisfait par le sommaire du Télérama de la semaine. 8 sujets du magazine mettent des femmes à l'honneur. 8 sur 14, c'est pas mal.
C'est
hein,
très très bien.
Pas mal, oui. Mais j'ai surtout été intéressée par la rubrique « Penser autrement » intitulée « Garantir l'IVG vraiment ». Emmanuel Macron, encore lui, a proposé le 8 mars dernier de faire figurer l'avortement dans le futur projet de loi révisant la Constitution. Dans cet article, le professeur de droit public Stéphanie Hennette-Vaucher décrypte d'abord dans quel cadre faire cette inscription. Loi constitutionnelle proposée par le gouvernement ou par le Parlement ? Et ensuite, les éléments de langage de cette proposition. La formulation du texte est extrêmement importante et celle de la proposition du Sénat début février confine, d'après elle, la malhonnêteté intellectuelle, nous explique-t-elle. Ce choix de formule est un recul indéniable par rapport à celui de l'Assemblée nationale en novembre. Et ensuite, elle décortique la portée juridique des mots « droit » et « liberté ». À ses yeux, l'essentiel est dans l'emploi du verbe « garantir » ou « protéger » ou même « favoriser » le droit à l'avortement. Mais elle relativise la portée de cette action. Quelle que soit la formulation, même la plus ambitieuse, on n'aura jamais de protection absolue. Alors lisez cet article pour bien appréhender ce qui se cache derrière les mots des uns et des autres. On peut aussi s'interroger sur qui rédigera ce texte, des hommes, des femmes, à égalité. Eh bien oui, ça risque de tout changer, ça.
Rob Bresny promet aux natifs du Bélier une réussite financière dans les prochains jours.
Oui, s'il fallait choisir un homme pour illustrer la puissance symbolique de l'astrologie, ce serait peut-être le banquier, financier, investisseur et bélier J.P. Morgan. Il est né en 1837, ce brave homme, et il est mort en 1913. Son thème astral laissait fortement soupçonner qu'il deviendrait l'une des plus grosses fortunes de son temps. Alors, si tes astres financiers, cher Bélier, ne brillent pas du même éclat que ceux de J.P. Morgan, ils n'en sont pas moins fort prometteurs. Vénus, Uranus et le nœud lunaire nord, attention, hein, pas le sud, hein, le nord,
c'est précis,
sont dans ta maison des finances et seront momentanément rejoints par la Lune elle-même dans les jours qui viennent. Écoute donc mon conseil, fie-toi à tes instincts d'argentier, recherche l'inspiration dans tes finances.